Donc reprendre la présentation des différentes transformations, non pas d'ordre historique et politique, mais d'ordre plus structurel. Après avoir analysé les transformations structurelles concernant les formes mêmes ou les fondements mêmes de la société assurantielle, il faut maintenant souligner deux autres types de transformations plus fondamentales qui ont concouru à cet effritement des formes de l'égalité redistribution. Des transformations d'ordre économique concernant le modèle économique et les formes de l'entreprise, d'une part, et d'autre part, des transformations concernant la société d'un point de vue que j'analyserai d'un point de vue très précis, c'est la transformation des conditions de perception de ce que veut dire la similarité entre les hommes. D'abord, les changements d'ordre économique. L'histoire de l'égalité-redistribution, elle était clairement indissociable de la domination des idées keynésiennes en matière de politique économique. Idées keynésiennes qui donnaient la primauté au rôle de la demande en économie et qu'un des grands arguments de la redistribution est évidemment la possibilité d'accroissement de la demande. Il faut rappeler que le premier grand théoricien de la sous-consommation et donc des théories de la gestion de l'économie à partir de la demande, c'était l'ouvrage de Hobson. Hobson, dans l'impérialisme, dans sa polémique avec Chamberlain, avait le premier formulé cette idée fondamentale. Mais à côté de cette question des politiques économiques, c'est aussi une autre vision de l'économie qui s'était imposée au moment de l'âge d'or de cette égalité-redistribution. Il est important d'en rappeler les grands traits pour prendre la mesure des changements actuels. Des auteurs comme Andrew Schoenfield, Galbraith et Peter Drucker, j'ai choisi de présenter trois auteurs dont les ouvrages ont été extrêmement diffusés mondialement, qui ont été des best-sellers, bien sûr, aux États-Unis, mais également en France, de les choisir parce qu'ils ont bien exprimé le nouveau regard qui était porté sur l'économie et les entreprises dans les années 1960. Dans Le capitalisme aujourd'hui, qui est un ouvrage publié en France en 1965, Andrew Schoenfield, à l'issue d'une vaste enquête qu'il avait menée en Amérique et en Europe, décrivait la grande entreprise privée moderne comme une organisation, je le cite, qui se considère comme une institution permanente, investie de fonctions qui dépassent la réalisation du profit maximum et sont parfois même incompatibles avec elle. Le style de la grande entreprise moderne tendant de plus en plus à évoquer le comportement des grandes institutions publiques. À la même époque, Peter Drucker, dans un de ses grands ouvrages « Management », écrivait « The concept of profit maximization is meaningless ». Même si la concurrence n'avait pas disparu, ce type de grande entreprise, estimés Drucker et Schoenfield, avait émergé grâce à sa capacité de maîtriser le marché, c'est-à-dire de ne plus être soumise au mouvement des organisateurs du court terme. Allant même plus loin, ces auteurs considéraient que le temps de l'économie de marché était désormais révolu. Je cite Galbraith. « Le système industriel moderne, écrivait-il, n'est plus essentiellement celui de l'économie de marché. Il est planifié en partie par les grandes entreprises et en partie par l'État moderne. Il doit être planifié car la technologie et l'organisation moderne ne peuvent se développer favorablement que dans un cadre de stabilité, condition que le marché ne peut satisfaire. Pour lui, les entreprises modernes étaient ainsi devenues des organisations relativement autonomes, grâce à leur taux élevé d'autofinancement. Elles recouraient peu au marché boursier. Elles avaient globalement réussi à se dégager du pouvoir des actionnaires. Ces derniers se contentant de recevoir, je cite Galbraith, les profits raisonnables qu'on leur versait. Schoenfield disait de son côté, la situation des actionnaires, que les théoriciens du libéralisme présentent parfois comme un parlement dictant aux ministres ce qu'ils doivent faire, est en fait bien plus comparable à une armée disciplinée que la loi autorise à se soulever contre ses généraux si et seulement si les rations viennent à faire défaut. Ayant peu à emprunter, les entreprises étaient par ailleurs très peu soumises au pouvoir des banques. Et Galbraith fera le même constat, et de multiples travaux de l'époque valideront cette appréciation sur le dépérissement du pouvoir de l'actionnaire dans l'entreprise capitaliste des années 60, voire notamment un autre classique, j'ai cité Drucker, Galbraith et Schoenfield, mais on pourrait citer quelqu'un qui est un autre grand classique de l'époque, Edward Mason. Il a longuement développé ce thème-là. D'où ce que Galbraith qualifiait de l'étrangeté déconcertante d'un capitalisme sans contrôle du capitaliste. Grâce à leur dimension ou à leur monopole technique sur certaines fabrications, les entreprises pouvaient, enfin, maîtriser leurs prix. Donc, elles étaient dégagées du marché du point de vue des prix, dégagées grâce à l'autofinancement du pouvoir de l'actionnaire, du pouvoir des bourses et du pouvoir des banques. Et paradoxalement, le caractère privé de ces grandes entreprises était même défini et décrit par Galbraith et Schoenfield comme un facteur supplémentaire d'autonomie, puisqu'elles étaient théoriquement et légalement soumises au contrôle des actionnaires, nul autre pouvoir ne pouvait en effet prétendre légalement imposer le sien. Et leur caractère privé renforçait donc en quelque sorte leur autonomie. Ces entreprises étaient ainsi indépendantes de l'État, du marché et des actionnaires. Et leur complexité était en outre considérée comme un garant supplémentaire de leur autonomie. En effet, expliquait longuement Galbraith, dans son livre « Le nouvel État industriel », auquel je fais référence là, publié chez Gallimard en 68, « Nulle personne extérieure à l'entreprise ne pouvait posséder suffisamment d'informations et d'expertise pour contredire ou discuter les décisions et les choix de ces grandes entreprises. Le fait d'être gouverné par un noyau de managers spécialisés, noyau de managers qui coordonnait une armada d'experts en tout genre, cet ensemble formera ce qu'il a défini d'un mot qui est devenu fameux, la technostructure, achevait de faire de telles entreprises de véritables organisations indépendantes. Galbraith résumait son propos de la façon suivante. En enlevant les décisions aux individus et en les localisant dans les profondeurs de la technostructure, la technologie et la planification les soustrait à l'influence des éléments extérieurs. Préservées des ingérences de cette nature, les entreprises étaient parallèlement décrites comme des organisations anonymes au sein desquelles le pouvoir était d'essence collective, indépendant donc de toute direction proprement individuelle. Dans la grande entreprise moderne, écrivait Galbraith, le pouvoir est passé de façon inévitable et irrévocable de l'individu au groupe, car le groupe est seul à posséder les informations nécessaires à la décision. Le constat était au cœur de sa description de ce qu'il convient d'appeler une désindividualisation du pouvoir économique, en même temps aussi qu'une socialisation de la responsabilité. Ce transfert du pouvoir aux organisations avait plusieurs implications pour l'auteur du nouvel État industriel. Il traduisait d'abord l'effacement de la figure schumpeterienne de l'entrepreneur. Galbraith disait fermement « L'entrepreneur n'existe plus en tant que personne individuelle dans la firme industrielle évoluée. » et il a des pages qui portent directement sur Schumpeter. La technostructure, véritable cerveau collectif, avait remplacé l'entrepreneur schumpeterien. Et l'avènement de ce pouvoir impersonnel traduisait aussi le fait que le succès de l'entreprise était considéré comme dépendant de plus en plus de la qualité de son organisation et de la pertinence de ses procédures générales de gestion plutôt que des capacités exceptionnelles de telle ou telle personne. Cette entreprise pouvait donc être à la fois tout à fait performante en n'utilisant que des gens parfaitement ordinaires. Peter Drucker écrit dans un de ses premiers livres, Future of Industrial Man, il écrit dans l'entreprise moderne, le pouvoir décisif, celui du groupe des managers, est dérivé de personnes. C'est dans le sens le plus littéral du terme, un pouvoir infondé, injustifié, incontrôlé et irresponsable. Si cette entreprise générale pouvait être gouvernée par des gens très ordinaires, cela veut dire que le succès, c'est ce que dira Galbraith, consiste à prendre des hommes ordinaires, à les informer minutieusement, puis, je le cite, au moyen d'une organisation appropriée, à faire en sorte que leurs connaissances se combinent avec celles d'autres hommes spécialisés, mais également ordinaires. Et Galbraith concluait, cela dispense de l'emploi de génie. Le résultat est peut-être moins exaltant, mais beaucoup plus prévisible. Et Peter Drucker disait de son côté que le seul but d'une organisation est de rendre des gens ordinaires capables de faire des choses extraordinaires. La notion de talent descendait complètement de son piédestal dans cette mesure. Pour Peter Drucker et pour Galbraith, le talent n'avait pas sa place dans la grande entreprise. Cela avait une conséquence décisive pour Galbraith. C'était de minimiser le rôle du PDG. Le PDG était devenu pour lui un simple rouage parmi d'autres de l'organisation. Témoignait de cette condition le fait qu'il était parfaitement interchangeable. La retraite, la mort et le remplacement d'un capitaine d'industrie, si important soit-il, n'ont pas le moindre effet sur la General Motors ou Continental Can, qui était une grande entreprise de l'époque. Le directeur général d'une société était donc naturellement oublié, aussitôt parti. Et, dit Galbraith, il n'avait devant lui pour avenir que l'obscurité du Styx. Les dirigeants, comme les autres salariés, étaient devenus des hommes de l'organisation. C'est le titre d'un fameux livre sociologique de l'époque. Ils n'en étaient que les serviteurs. C'est l'organisation qui disposait du prestige et non ses membres. Du même coup, ces dirigeants étaient fiers de s'identifier à l'organisation. La grande firme moderne, constatait Galbraith, dispose à elle seule d'un prestige qui incite et encourage l'individu à accepter ses buts à la place des siens propres. Et il commentait pour dire à quel point le PDG n'avait plus d'importance. Et on peut savourer en fonction de ce qu'on connaît aujourd'hui des transformations économiques. Il dit de façon ironique, si le PDG était vraiment le maître de la grande société anonyme, s'il exerçait sur elle un pouvoir important, tout ce qui pourrait affecter son activité se répercuterait de manière sensible sur la croissance de l'entreprise, ainsi que sur les bénéfices et les gains en capital attendus. La bourse s'y intéresserait au premier chef. S'il tombait malade, les correspondants financiers des journaux iraient quêter les nouvelles à sensation à la clinique. Le téléscripteur véhiculerait ses électrocardiogrammes. Les spéculateurs à terme se feraient transmettre aux Bermudes ses bulletins de santé. Les cours monteraient ou baisseraient avec sa température, sa tension et son taux de cholestérol. De même, les mois précédant sa retraite seraient une période de grande inquiétude. Mais rien de tout cela ne se produit. La socialisation de la responsabilité et de la productivité qui résultait de ce type d'organisation avait pour conséquence, aux yeux de Galbraith, de déplacer complètement la question sociale. L'efficacité productive de ce système entraînait mécaniquement une redistribution et une diminution des inégalités, l'amélioration du sort de chaque individu étant indexée sur des résultats considérés comme structurellement collectifs. Nul ne pouvait prétendre avoir des droits personnels à se les accaparer. Les dirigeants étaient certes mieux rémunérés, mais dans le seul cadre d'une hiérarchie fonctionnelle des compétences. Pour faire image, je l'ai signalé dans l'introduction, rappelons que Peter Drucker estimait à cette époque que la hiérarchie salariale devait se limiter à un écart de 1 à 20 dans l'entreprise, entre le salaire du PDG et le salaire le plus bas. Et au moment où Galbraith écrivait, les dirigeants ne se voyaient d'ailleurs guère distribués d'actions. Et ils pouvaient estimer, c'est ce que disait Galbraith, que leur niveau de salaire n'était pas très élevé. Et Galbraith voyait même se dessiner un avenir dans lequel la maximisation des profits par l'entreprise deviendrait un objectif purement mécanique, presque technique, détaché donc des intérêts propres des dirigeants. Et Galbraith a développé toute une théorie psychologique en disant que le règne des grandes organisations se traduirait par une mutation psychologique des individus. La volonté de faire des profits, je le cite, se détacherait du moi chez les dirigeants. Et Galbraith et Drucker n'avaient rien d'originaux lorsqu'ils décrivaient cette évolution de l'entreprise. Même si la ligne de partage entre ce qui était de l'ordre du contrat, du constat et ce qui relevait d'une spéculation sur l'évolution à venir n'était pas toujours tracée chez eux de façon très claire, ils exprimaient une vision des choses largement partagée dans le monde industriel. En France, un François Bloch-Lenné, l'auteur de « Pour une réforme de l'entreprise », 1963, radicalisait même très fortement leurs propos pour appeler de ses voeux une entreprise dotée d'un gouvernement représentatif. Il était très critique de Galbraith, qu'il trouvait trop modéré. Et dans un registre plus descriptif, même Raymond Aron concluait ses 18 leçons sur la société industrielle, 1962, en notant que les sociétés industrielles proclament une conception égalitaire de la société et simultanément font surgir, je le cite toujours, des organisations collectives de plus en plus vastes où l'individu est de plus en plus intégré. Et dans cette conclusion des 18 leçons sur la société industrielle, Raymond Aron considérait simultanément qu'un taux de prélèvement fiscal de 55 à 60% sur les revenus pouvait être considéré comme acceptable et n'avait, disait-il, aucun effet des incitatifs sur les dirigeants d'entreprise. Et que les sociétés industrielles tendraient donc inéluctablement à la réduction des inégalités de revenus. Ce capitalisme et cette grande entreprise, celle qu'il était décrit par Galbraith, Schoenfield et Drucker, a changé, bien sûr. Mais il faut comprendre comment et pourquoi. On peut dire que ce capitalisme que l'on peut qualifier d'organisation, tel qu'il était décrit par Galbraith Schoenfield dans les années 60, avait marqué une rupture avec le précédent capitalisme, disons, d'expansion en termes de mode de gestion, c'est très clair, de rôle de l'actionnaire ou de rapport au marché. Mais en matière d'organisation du travail, la continuité avait prévalu. De la fabrique à l'usine, la mobilisation de la force de travail s'était opérée sur un même mode. L'ouvrier était toujours réduit à sa force de travail, c'est-à-dire à ce qu'il y avait en lui de généralité substituable. Il était resté un composant parfaitement interchangeable de ce que Marx avait décrit dans le Capital comme le véritable sujet de la production capitaliste, le travailleur collectif. Et l'usine fordiste n'avait fait que rationaliser cet état de fait avec le perfectionnement du travail à la chaîne. Avec la ligne mécanisée de production, les particularités d'âge, de sexe, d'origine, de formation avaient en effet été radicalement effacées. Le travail manuel s'était fait pure marchandise, puissance abstraite. Et l'exploitation de l'ouvrier était en ce sens inséparable d'une véritable désindividualisation. Mais le capital avait simultanément, pourrait-on dire, réifié le travail intellectuel en incorporant la connaissance sociale dans le capital fixe. C'est toute la démonstration de Marx dans le Capital en disant que l'accumulation du savoir et de l'habileté sont absorbées dans le capital qui s'oppose alors au travail, apparaissant comme une propriété du capital, ou plus exactement du capital fixe. C'est pourquoi Marx avait d'ailleurs défini l'émancipation comme un retour à la particularité. L'exploitation, c'était la constitution du travailleur en généralité substituable. L'émancipation, c'était le retour à la particularité. Et le travail libre, dans sa définition la plus forte, était donc pour lui celui de l'artiste, dont l'œuvre se confond avec l'expression d'une irréductible singularité. Et l'auteur du Capital ne cessera pour cette raison d'identifier l'avènement d'une société libérée à la possibilité pour tous les individus de devenir pleinement créateurs. Et d'une certaine façon, c'est ce à quoi renverra tout au long du XIXe siècle, dans le mouvement ouvrier, le thème de l'abolition du salariat, dans son lien avec l'éloge du travail indépendant. Le capitalisme contemporain d'aujourd'hui se distingue d'une double façon de ce précédent capitalisme d'organisation. En termes de rapport au marché et de rôle des actionnaires, avec évidence, je n'ai pas besoin de le développer, mais aussi dans son mode de mise en forme du travail. La mobilisation de l'ouvrier masse de l'ère fordiste a cédé la place à une valorisation des capacités individuelles de création, et les qualités de réactivité ont supplanté le sens de la discipline. Le travail s'est de la sorte singularisé. Il y a deux raisons majeures à cette singularisation du travail. La nature même de la production a d'abord changé. Les nouveaux biens de l'information et de la communication sont directement constitués par de la connaissance, et les objets techniques eux-mêmes incorporent essentiellement du savoir scientifique. C'est donc la créativité qui est devenue le principal facteur de production. D'où les dénominations employées par certains, à juste titre, de capitalisme cognitif ou de subjectivité productive pour qualifier cet état de fait. Et d'un autre côté, le développement d'une économie de service donne une importance centrale à la qualité de la relation particulière avec le consommateur. Cette relation avec le consommateur est en effet constitutive du service. On peut dire que le consommateur consomme la façon de travailler d'une personne et non pas simplement le produit de travail. Là aussi, on peut donc parler d'un processus de singularisation du travail. C'est évident lorsqu'on pense à des activités de soins, des activités de conseil, de service à la personne, d'enseignement ou d'artisanat spécialisé, voire la cuisine. Mais c'est également le cas avec les métiers de livraison ou de réparation à domicile. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le plus gros contingent des emplois catalogués comme ouvriers sont ces emplois de livraison et de réparation, aussi bien évidemment que ceux de multiples services de renseignement. D'où la centralité qui est prise par la notion de qualité qui correspond à la diversification potentiellement infinie des différentes façons d'accomplir ces tâches. Mais c'est également la transformation des conditions générales d'organisation de la production qui a conduit à particulariser le travail. Le processus de travail est d'abord devenu beaucoup plus flexible. Au monde de la planification a donc succédé celui d'une nécessaire adaptation permanente. Évolution qu'on pourrait d'ailleurs mettre en parallèle avec la suppression au niveau macroéconomique de l'institution du plan en France, dans les années 1990. Cela signifie qu'il ne suffit plus aux salariés de se conformer mécaniquement à des prescriptions générales pour s'acquitter de leurs tâches. Ils doivent être en mesure de prendre des initiatives, de répondre à l'imprévu en résolvant les problèmes qui surgissent. S'il y a toujours des injections procédurales qui parviennent d'en haut à l'employé, celles-ci ne peuvent souvent être suivies d'effet que grâce aux initiatives que le salarié saura prendre en retour. Et le fonctionnement des organisations est ainsi devenu indissociable de la reconnaissance d'une certaine autonomie des travailleurs, même dans le cas d'emplois apparemment répétitifs. Il en résulte de nombreuses conséquences pratiques. Cela change notamment de façon radicale la perception que l'on pouvait avoir des postes de travail. La notion relativement uniforme de qualification, celle qui a été retenue en 1945 dans l'ensemble des conventions collectives. Une notion de qualification décrit des aptitudes générales, des niveaux donnés de connaissances ou de savoir-faire particuliers qui sont susceptibles d'être précisément mesurés et étalonnés. eh bien, cette définition de la qualification a cédé le pas à la notion de compétence. Un sociologue qui est Denis Segrestin, dans Les chantiers du manager, définit la compétence de la façon suivante. Le sujet compétent, écrit-il, est celui qui sait prendre les bonnes décisions pour faire face à l'imprévu. Donc, il y a une différence fondamentale entre la compétence et la qualification. La compétence est une qualité d'adaptation, alors que la qualification, je dirais, est une dimension de formation. Et la notion d'employabilité qui s'est développée a simultanément été forgée pour exprimer cette idée d'interaction entre des qualités personnelles et les caractéristiques du marché du travail ou le fonctionnement d'une organisation. Elle souligne, là encore, la rupture avec la réalité antérieure du travail prescrit, avec toutes les conséquences que cela entraîne en termes de stress accru ou de pression psychologique. Et la figure du travailleur ordinaire tend de cette façon à se rapprocher de celle de l'artiste qui en constituait auparavant l'antithèse absolue. L'individu ne s'identifie plus pour cela à l'ancien membre d'une classe de travail qu'il était lorsqu'une organisation contraignante le réduisait à la condition mécanique d'une force de travail, c'est désormais sa valeur d'usage, c'est-à-dire sa singularité qui est devenue le facteur décisif de production. Sa productivité est indexée sur sa capacité à mobiliser des ressources propres et à s'investir de façon autonome dans sa tâche. Et les modes de régulation collective de la force de travail s'en sont trouvés du même coup affectés. La rémunération n'étant, par exemple, plus simplement déterminée par l'inscription dans une grille de classification et qualification. Donc. Et le sentiment d'injustice ou de justice au travail a donc été profondément modifié en conséquence. Cet appel à l'autonomie, il fait évidemment l'objet d'un enjeu. L'autonomie est une qualité de travail pour l'individu, il est une ressource productive pour l'entreprise, dont évidemment, pourrait-on dire, les conflits sur la définition de l'autonomie. Je renvoie sur ce point, par exemple, à la discussion qu'il y a eu récemment entre Alain Ehrenberg et Robert Castel sur ces définitions, qu'on pourrait dire, le passage d'une singularité positive à une singularité positive et revendiquée, à une singularité exploitée, une singularité subie. Dans tous les cas, le mode de production qui constitue un tel capitalisme de la singularité a été inséparable d'une économie structurée par une innovation permanente. Un fait fondamental est que la liste des grandes entreprises était restée relativement stable dans les pays industriels entre les années 50 et 1970. C'est-à-dire l'entreprise que décrit Galbraith ou l'entreprise que décrit Schoenfield comme des grandes puissances autorégulées et qui sont devenues des espèces d'institutions correspond à une réalité. C'est que celle qui était dans le... Enfin, ce n'était pas le CAC 40 à l'époque, mais enfin, l'équivalent du CAC 40 en France, aux États-Unis, étaient les mêmes. Alors si on prend le seul cas des États-Unis aujourd'hui, les plus grandes capitalisations boursières sont celles d'entreprises qui sont nées dans ces années 90. On pense à Microsoft, Apple, Oracle, etc. Et donc le paysage industriel et financier a partout connu une brutale mutation, entraînant aussi en retour un changement accéléré des modes d'organisation et de mobilisation du travail. Je signale d'ailleurs que c'est un sujet sur lequel des économistes et des historiens de l'économie sont en train de travailler actuellement, se demandant comment il faut considérer les Trente Glorieuses. Et certains d'entre eux estiment que les Trente Glorieuses ont été une parenthèse dans l'histoire économique des entreprises. Cette parenthèse, justement, c'est celle d'un moment où les entreprises n'ont pas été liées à un fort courant d'innovation. Toutes les grandes innovations industrielles qui ont fait le XXe siècle, qu'il s'agisse des choses comme l'électricité et même l'atome, sont des choses qui ont été inventées avant la Deuxième Guerre mondiale. Et le nouveau grand cycle d'innovation que nous connaissons aujourd'hui est lié évidemment à toutes les technologies de l'information et de la communication. Mais ces Trente Glorieuses, paradoxalement, n'ont pas été un moment d'innovation industrielle. Donc voilà ce qu'on peut dire très brièvement concernant les mutations dans l'ordre économique. Donc le passage d'un capitalisme d'organisation à un capitalisme de la singularité. avec toutes les conséquences que cela va avoir dans la perception, là aussi, de la répartition des profits de l'entreprise, du sens du juste et de l'injuste, et puis également de la perception de l'égalité. Mais il y a un troisième grand facteur structurel qu'il me semble décisif à prendre en compte, c'est la nouvelle perception de ce que veut dire la similarité. L'appréhension de l'égalité comme qualité d'une société de semblables n'a évidemment rien perdu de son actualité. Je l'ai dit là aussi dans l'introduction, ce qui est le plus insupportable, c'est le sentiment de ne pas être traité comme les autres, d'être traité comme moins que rien, et que l'idée d'égalité, elle se confond toujours avec cette revendication fondamentale d'être considéré comme quelconque. Considéré comme quelconque, c'est ne pas être assigné à une spécificité excluante. Et effectivement, on peut dire que être égal, être semblable aux autres, c'est être reconnu pour la généralité qu'il y a en soi. Cette généralité qui fait de moi le semblable des autres et qui s'apparente, de ce point de vue-là, à une forme d'indistinction. C'est donc une similarité universalisante. Mais cette similarité universalisante se lie aussi aujourd'hui à une autre appréhension de la similarité, au désir d'être regardé par autrui avec sa spécificité, avec ses traits propres. Cela signifie qu'elle s'identifie à la volonté de particularisation et non pas de généralisation, à la volonté d'être quelqu'un. Et ce basculement a des implications considérables. Pour bien le comprendre, il faut retracer très brièvement ce que j'appellerais une histoire intellectuelle de la similarité. La similarité telle que j'ai pu la présenter dans le cours de l'an dernier et la rappeler rapidement dans le cours de cette année, la similarité révolutionnaire, c'est donc le développement de cette similarité qui reconnaît en chacun la généralité d'humanité qu'il y a en lui. Mais toute l'histoire du XIXe siècle va être en quelque sorte, l'histoire sociale aussi, une recompréhension et une discussion de cette notion de similarité. Comment la penser positivement au-delà de ce principe premier d'appartenance à une commune humanité? Il y a trois façons de la comprendre qui se sont dégagées au XIXe siècle. Trois façons de la comprendre qui ont été à la fois, je dirais, des façons critiques ou des façons utopiques. La similarité comme conformisme, la similarité comme indifférenciation et la similarité comme abstraction juridique. Tocqueville a été le premier à souligner les équivoques de la similarité. En même temps qu'il voyait en elle le principe générateur de la démocratie comme forme sociale, c'est toute sa théorie de l'égalité des conditions, il a simultanément mis l'accent sur ce que cette égalité des conditions, cette similarité, tendait à entraîner à son revers. Elle tendait à entraîner l'avènement d'un monde dominé par le conformisme et la médiocrité. La généreuse société des semblables prend alors le triste visage de la masse commune, ou le triste visage, je cite Tocqueville, d'une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de vulgaires et petits plaisirs. Cette critique a eu pour caractéristique d'être au carrefour d'une nostalgie aristocratique et d'un impératif romantique. Elle empruntait à la nostalgie aristocratique l'attachement aux grandes existences, à des vertus ou à des qualités supposées s'incarner plus facilement dans des individus distingués. Et elle partageait avec l'impératif romantique l'exaltation d'une radicale singularité. L'homme supérieur d'un côté et l'artiste ou le poète de l'autre ont été de la sorte opposés à l'homme commun, à l'homme semblable, ont été opposés comme figure d'une humanité plus forte et plus authentique. Et dans les deux cas, c'est un même scepticisme vis-à-vis de la démocratie qui assimilait plus ou moins brutalement régime de la souveraineté du peuple et conformisme social qui a découlé de ce procès de la similarité qui était en fait assimilé à la platitude bourgeoise ou à la médiocrité populaire. Et les voix faisant écho à ces phobies n'ont cessé de se faire entendre avec force au XIXe siècle. Il suffit de mentionner le nom de Nietzsche pour faire image. La crainte diffuse de l'âge des masses s'est ainsi muée chez certains de ses auteurs en une stigmatisation obsessionnelle et méprisante du troupeau humain, alors que le poète ou l'artiste de leur côté ont surtout cherché à expérimenter une alternative à travers soit leur mode de vie, c'est toute la théorie de Murger et de la Bohème, soit à travers leur œuvre, bien sûr. Cette défiance vis-à-vis de la similarité, qui a été fondamentale dans l'histoire du XIXe siècle, la similarité-conformisme, a voisiné, au contraire, au début du XIXe siècle, avec des formes contraires d'enthousiasme utopique. Dans les milieux fourriéristes et saint-simoniens notamment, on voit ainsi formuler le rêve de constitution d'un monde de semblables parce que rendu totalement homogène par le mélange des groupes humains. Et différents auteurs prennent alors au pied de la lettre l'ambition formulée par Sieyès de réaliser une assimilation des hommes. Sieyès avait eu cette formule pour définir la démocratie comme le régime de l'assimilation des hommes. Et l'œuvre de Victor Courtet de Lille, parce qu'il habitait à Lille-sur-la-Sorgue, est symptomatique de cette façon de concevoir les progrès de l'égalité démocratique et la société des semblables. Courtet appartient à une génération passionnée de physiologie et de phrénologie, nourrie par l'espérance de voir advenir une politique positive fondée sur la science de l'homme. Et ce jeune Saint-Simonien était ainsi un des membres les plus actifs de la Société ethnologique de Paris, qui, je le rappelle, avait été fondée avec Michel Chevalier, Gustave d'Eichthal, Adolphe Guéroux ou Olinde Rodrigue, tous qui étaient parmi les principaux lieutenants du père enfantin. Donc cette Société ethnologique de Paris, c'est un milieu totalement saint-simonien. Courtet de Lille a exprimé sa vision de la marche du monde vers l'égalité dans un ouvrage de 1838 qu'il rendra célèbre, on ne le verra pas toujours pour de bonnes raisons, qui s'appelle « La science politique fondée sur la science de l'homme » ou « Étude des races humaines sous le rapport philosophique, historique et social ». Courtet partageait la perspective de nombre de ses contemporains, pensez à la phrénologie, sur l'analyse des races humaines. Et se fondant sur des travaux qui étaient considérés comme scientifiques à l'époque, à l'instar de ceux du physiologiste Edwards, comme ceux de Cuvier ou Blumenbach, il admettait l'inégalité des races. Mais, contrairement à bien d'autres, il n'en tirait aucune conséquence raciste. Alors même qu'un Gobineau, qui sera un grand lecteur de Courtet de Lille, alors que Gobineau déduira quelques années plus tard ce même constat, une théorie de la nécessaire préservation de la race supérieure blanche des malheureux mélanges, Courtet se présentait au contraire comme le champion de la mixité. Il faisait même d'une politique de fusion des races le fondement d'une anthropologie démocratique. Si nous supposons un peuple formé par une seule race sans mélange, nous pouvons prédire que ce peuple, écrivait-il, aimera passionnément l'égalité. Et à ses yeux, si la France était spécialement animée par l'esprit de l'égalité, c'est parce que le mélange des populations y avait été plus ancien et plus permanent qu'ailleurs. C'est un grand thème de l'historiographie, bien sûr, du XVIIIe, mais encore plus de cette époque. D'où son vibrant plaidoyer en faveur d'une démocratie du métissage. Voulez-vous une société fondée sur la plus parfaite égalité ? Demandait-il en conclusion de son livre. Voilà la solution. J'associerai des individus issus de la même souche, des mêmes familles, et rendus autant que possible identiques les uns aux autres par l'action d'un croisement continu. Nul dans cette société ne se résignera à une position subalterne. Chacun voudra régner. Les premiers de la veille seront abaissés le lendemain, tour à tour honorés et avilis. Les derniers subiront longtemps les inspirations d'une jalousie dévorante, jusqu'à ce qu'à leur tour, ils parviennent par leur élévation à exciter la jalousie d'autrui. Que l'ordre règne dans cette société, c'est chose impossible. Mais ce qui règnera, c'est un nivellement absolu des conditions et des pouvoirs. L'égalité-similarité, dans ce cas, s'inscrit clairement dans un horizon d'indifférenciation naturelle sur le mode d'une homogénéité, une identité. Je signale d'ailleurs que Gustave d'Eichthal et Ismaël Urbain ont échangé des lettres sur la race noire et la race blanche à l'époque, dans lequel ils appelaient leur vœu le croisement généralisé des Noirs et des Blancs pour dépasser la question du racisme. Et la similarité, donc c'est une deuxième façon de penser la similarité comme indifférenciation, si je puis dire. Troisième façon de penser la similarité, c'est la façon, je dirais, française la plus classique, c'est de la comprendre comme le double produit d'une assignation des individus à leur statut de sujet de droit et d'une philosophie du monopole public. C'est-à-dire dans cette perspective qu'il faut, me semble-t-il, resituer le sens de la lutte contre les particularismes pendant la Révolution. La lutte contre les particularismes pendant la Révolution n'a pas tant procédé d'une passion dévorante pour la centralisation, ce qui définirait la vision jacobine, que d'une certaine appréhension de l'égalité-similarité comme produit nécessaire d'une uniformité-abstraction. Sur ces trois modes fort différents, la similarité n'a été comprise et analysée que sous les aspects d'une qualité sociale générale. Elle a été substantialisée, faisant en conséquence de la valorisation des singularités son contraire. Mais le lien de l'idée de similarité à celle de singularité se conçoit très différemment si la similarité est définie comme une relation et non pas comme une essence. La similarité devient en effet alors appréhendée comme un travail qui naît du constat d'une différence entre les individus et qui la requiert même d'une certaine façon pour donner un sens moral et politique à l'idée d'égalité. L'égalité ne prend leur sens que si elle est socialement construite, en se tenant à l'écart de ce qui en constitue la contrefaçon la plus menaçante et la plus trompeuse, l'indistinction. Dans un monde qui serait marqué par l'indistinction des êtres, il n'y aurait en effet pas de vraie relation possible entre eux, comme il n'y aurait pas d'histoire possible du genre humain. C'est un point qui est très fortement souligné par Rousseau dans l'Émile. S'il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de genre humain possible, il n'y a pas d'histoire possible. D'où je pense que toute la considération qu'il y a sur le rapport entre les sexes dans l'Émile est très profondément liée à une réflexion sur les problèmes de l'indistinction. C'est donc à distance de ce précipice de l'indistinction, sous ces différentes formes, le conformisme, l'indifférenciation et l'uniformisation, que doit s'éprouver le travail de la similarité. Et pour bien prendre la mesure de cet impératif, il faut aussi le resituer dans l'évolution de la perception même de la similarité. La compréhension de la similarité ne se sépare pas en effet de l'histoire des perceptions de l'individu et de l'identité. Le sociologue George Simmel, donc on peut dire qu'il y a deux histoires sociologiques à l'époque, il y a celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, d'Espinasse, Durkheim, Fouillé, Hobson, Obhaus, qui sont les théoriciens, je dirais, de la société organique, et puis il y a ceux qui vont être au contraire, je dirais, les visionnaires d'une nouvelle société d'individus comme Tard ou Simmel. Et Simmel a fortement souligné dans cette direction qu'individualisme et similarité avaient été perçus comme totalement convergents justement pendant la période révolutionnaire. Il avait parlé pour cela d'individualisme de la similitude. Et c'est à ses yeux ce qui qualifiait généralement le mouvement des sociétés européennes au XVIIIe siècle. Il avait voulu souligner avec cette expression que l'aspiration à l'autonomie et à la liberté avait alors été indissociable d'un éthos égalitaire. La perspective individualiste, écrivait-il, avait en effet, je le cite, comme présupposé que les individus, une fois qu'ils seraient débarrassés de toutes les entraves historiques et sociales, se révéleraient pour l'essentiel semblables entre eux. Et donc, que la liberté et l'égalité étaient dans ce cas deux valeurs qui se superposaient exactement. Avec le concept d'individualité au XVIIIe, poursuivait-il, la liberté personnelle n'exclut pas, mais inclut l'égalité, du fait que la vraie personne est identique en chaque individu. Une fois débarrassés des ordres, des tutelles ou des structures imposées, les individus, pensait Simmel, pourraient s'affirmer pleinement comme être humain. Chacun deviendrait un homme tout court. C'est la part de généralité qu'il y avait en chacun qui était en effet niée dans un monde réduisant les individus à leurs conditions, qui les assignait donc par là une existence mutilée. Être soi-même n'était pas différent d'être semblable aux autres dans ces conditions. L'individualisme qui tendait ainsi à se réaliser, résumait Simmel, avait à la base l'égalité réelle naturelle des individus, la représentation que toutes les entraves étaient des inégalités artificiellement créées, et que si l'on mettait ces entraves de côté avec leur contingence historique, leur injustice, leur pression, alors surgirait l'homme parfait. L'homme parfait, c'est-à-dire le semblable. Cette superposition simple et pacifiée de l'égalité et de la liberté du XVIIIe siècle va être rompue au XIXe siècle avec le développement d'un individualisme de l'altérité et non plus de la similarité, ou ce qu'on pourrait appeler aussi un individualisme de la distinction. Les hommes vont alors aussi chercher à donner sens à leur existence à travers le développement de ce qui leur est propre et les établir dans leur différence à autrui. L'idée de similarité ne s'en est pas trouvée exclue, mais elle a pris un sens plus étroit. Elle s'est d'une certaine façon particularisée en se restreignant à des groupes plus limités. Et le phénomène de la mode, largement analysé par Tard et Simmel, en constitue une expression métaphorique. Et c'est pour cela qu'il a retenu l'attention. Tard parlait du règne de la mode par rapport à l'ancien règne de la coutume pour caractériser le processus moderne de singularisation des individus et les conditions nouvelles dans lesquelles ils tendaient à se mesurer les uns aux autres. Dans cette perspective que l'on pourrait dire interactive du lien social, individualisation et aspiration à un rapprochement de type inédit entre les hommes, celui d'une similarité devenue choisie, allaient de pair. En même temps qu'elle constituait le vecteur d'une recherche d'assimilation à certains, la mode constituait le ressort d'une entreprise de distinction vis-à-vis d'autres. Mais ce faisant, elle ne s'en insérait pas moins dans un univers de commensurabilité qui restait ouvert, dont nul n'était a priori exclu, car elle ne définissait pas des conditions qui devenaient séparées. Elle était l'expression d'un mouvement général de la société. Cet individualisme de l'altérité, on l'a dit, était marqué en son origine par des accents aristocratiques ou romantiques. Mais il s'est progressivement généralisé, démocratisé si l'on veut, en étant indexé sur le mouvement de complexification et d'hétérogénéisation du monde social. La société des semblables est ainsi devenue appréhendée sous des espèces d'une égalité des singularités. C'est avec ce qu'ils ont en eux de spécifique que les individus veulent dorénavant faire société. Et la valorisation de la singularité doit donc être comprise en retour comme socialement instituée. Elle ne marque pas une tendance à la dissociation de l'individu et de la société, au sens de ce qu'on appelle d'un mot trop court l'individualisme, mais elle fonde plutôt l'attente d'une égalité-réciprocité, d'une reconnaissance mutuelle. Elle est aussi sous-tendue, pour cela, par une conception relationnelle de l'égalité. Mais c'est également développé, surtout à partir des années 60 et 70, une nouvelle appréhension de la similarité. On peut la qualifier de nouvelle similarité identitaire, pour faire écho au terme d'identity politics qui lui a correspondu aux États-Unis. Elle s'est identifiée comme une réponse à des expériences de discrimination qui constituaient de fait des groupes par l'exclusion ou le mépris dont ils étaient l'objet. Aux États-Unis, les leaders noirs de la fin des années 60, en rupture avec l'esprit précédent du mouvement pour les droits civiques, qui était fondé sur l'espérance d'une intégration, sont ceux qui en ont le premier incarné le modèle. Ils ont répondu à un déni d'intégration par une politique séparatiste, les constituant en communauté de résistance. Et des mouvements féministes radicaux ont alors suivi un cheminement parallèle. Je rappelle d'ailleurs que toute cette thématique de la séparation avait été au cœur de la culture ouvrière du XIXe siècle. Se séparer, c'était alors pour le monde ouvrier se constituer en un tout autonome, existant par lui-même, détaché de ses maîtres. Et celui qui sera le grand théoricien de la séparation de ce point de vue-là, c'est Proudhon. Tout son ouvrage, La capacité politique des classes ouvrières, c'est une longue exhortation à la séparation sociale. C'est en faisant sécession d'une société qui les a asservis que les ouvriers pouvaient, à ses yeux, construire un véritable universalisme. Sans aller jusqu'au mouvement séparatiste, on peut dire que se sont multipliées des communautés d'identité fondées sur la revendication d'une égalité des particularités. La société des semblables n'est plus comprise dans ce cadre sur un mode universalisant, référé au travail d'une égalité agrégative qui rétablit tous les individus dans une même humanité en abolissant ce qui les distingue. Elle prend une autre forme, celle d'une égalité dissociative qui vise à faire advenir un monde dans lequel toutes les distinctions, quelle que soit leur construction, sont reconnues comme figures de cette même humanité. Cette différence entre égalité agrégative et égalité dissociative tient au fait qu'une discrimination ne produit pas les mêmes effets qu'un privilège. Un privilège empêche la constitution d'un monde de semblables, alors qu'une discrimination le présuppose. La discrimination, elle est constituée par une différence de traitement qui est considérée comme illégitime parce qu'elle repose sur une formulation jugée erronée d'une règle générale. Alors que le propre du privilège, c'est justement d'être construit sur un refus de la généralité de la règle, sur une différence des règles qui sont appliquées aux uns et aux autres. On peut donc dire que la discrimination se situe à l'intérieur, elle est interne à l'univers démocratique. Par exemple, estimer discriminatoire l'interdiction du mariage homosexuel signifie que l'on considère que la définition du mariage comme union civile d'un homme et d'une femme est insuffisamment générale. On va lui opposer l'idée de mariage comme union de deux individus. Mais une discrimination peut aussi provenir d'un défaut de généralité concernant l'appréhension d'un sujet, quand on considère ce sujet à partir d'un élément qui lui est propre, le sexe, la couleur de la peau, la nationalité, etc., au lieu de le traiter comme un être humain quelconque. On peut dire dans cette mesure que le propre de la discrimination est d'inverser les rapports attendus du quelconque et du quelqu'un. La discrimination est pour cela à la fois un déni de généralité et un déni de singularité. On voit de cette façon que l'idée de similarité s'est historiquement approfondie sous un double mode. En intégrant d'abord la considération de la multiplicité des singularités individuelles à respecter et en soumettant ensuite à la discussion permanente le caractère de généralité des règles, des institutions et des pratiques. Et les questions qui sont liées à la prise en compte du genre, qui sont au carrefour de ces deux dimensions, se sont trouvées pour cette raison au cœur des interrogations contemporaines sur le sens de l'égalité démocratique. Elles ont en effet été au carrefour de ces différentes définitions et conflits de définitions autour de la singularité. La semaine prochaine, nous verrons comment essayer de se reformuler une théorie de l'égalité dans un monde de la singularité.